Bonjour, je vous remercie de votre présence. Aujourd'hui, la Société de philosophie de Bordeaux a le plaisir de recevoir Bruno Carsenti, qui est directeur de recherche et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui est, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on présente un sociologue, une historienne de la philosophie le fait ainsi, il est spécialiste en particulier de l'œuvre de Marcel Mauss, de celle d'Auguste Comte et aussi de celle de Durkheim. Et donc, nous le recevons pour son livre récemment paru aux éditions Gallimard qui s'appelle « D'une philosophie à l'autre, les sciences sociales et la politique des modernes ». Mais il a une longue liste de publications et en 2012, il a publié un livre sur Freud, hein, « Moïse et l'idée de peuple ». Voilà, donc nous sommes très heureux de le recevoir et je lui laisse tout de suite la parole pour la conférence qu'il va nous proposer.
Bien, merci de votre invitation. Alors, donc j'ai préparé une conférence qui me permet de présenter sous une forme ramassée certains arguments du livre d'une philosophie à l'autre, mais je me suis donné pour défi d'illustrer, d'expliciter le sous-titre de ce livre et plus précisément une expression utilisée dans le sous-titre, la politique des modernes, qu'est-ce que j'entends par là et comment j'entends la revisiter à l'aide d'un regard inspiré par les sciences sociales. Alors, sous ce syntagme de politique des modernes, qui est au cœur de ce livre, et que je voudrais refonder par une articulation nouvelle entre sciences sociales et philosophie, je crois qu'il y a une sorte d'inquiétude assumée par tous. Cette politique, en effet, nous en héritons, mais nous sommes éminemment dubitatifs quant à la valeur qu'on doit accorder à cet héritage. Nous voulons faire les comptes avec elle, nous voulons faire les comptes avec la modernité et avec ce que la modernité emportait de politique. Nous réclamons un droit d'inventaire qui fait vaciller cette expression, la politique des modernes. Alors pourquoi ? Parce que cette politique a été une puissance d'élargissement extraordinaire, élargissement de l'expérience, dans la langue philosophique, d'universalisation, aux effets contradictoires. La politique s'est posée comme moderne en prétendant sans cesse repousser les frontières de sa validité et de son application. Pour le meilleur, certes, avec la conviction d'élargir toujours plus un projet d'émancipation dont on admet par principe qu'il est inachevable, mais aussi pour le pire, avec la violence qui consiste à ne plus respecter les frontières que les sociétés humaines peuvent encore se donner à elles-mêmes dans un monde où, somme toute, ce projet d'émancipation n'apparaît plus que comme une invention culturelle située, armée de la bonne conscience d'incarner l'universel à elle seule. C'est un peu le paradoxe de la modernité, hein. Comme Staline proposait le socialisme dans un seul pays, hein, on est tenté avec la modernité de penser qu'on a commis le crime de vouloir incarner à soi seul l'universel. Ainsi, la politique s'est-elle conjuguée sous deux modalités pratiquement inverses, d'un côté comme une expansion impériale d'un genre nouveau par le biais des guerres modernes et de la colonisation, de l'autre comme une extension de l'universalité de droit et des droits sous l'égide d'une forme de pensée dont nul n'est a priori exclu, qu'il s'agisse des personnes ou des peuples. Et le plus problématique est évidemment le fait que les deux côtés aient pu se présenter comme les deux faces d'une même pièce. Au nom de l'universalité de droit s'exercerait alors la domination de fait d'une culture sur une autre, la mise sous tutelle d'un peuple par un autre, voire au sein même de chaque société, l'exploitation d'une classe par une autre. Alors, on dira qu'on n'en est justement plus là et qu'une saine leçon de relativisme a déjà été tirée de notre passé. Donc, si on passe à un héritage plus proche de nous, c'est à ce relativisme-là qu'on paraît se rattacher. Ainsi, ce n'est que par la critique de l'idéologie de la modernité, ou encore de la modernité à prétention universaliste comme concept forcément idéologique, que le projet d'émancipation, plus près de nous, a cherché à se relancer. De la conscience de la grande contradiction est née alors la volonté d'entrer dans une ère postmoderne marquée par un plus haut degré de lucidité et de cohérence avec les principes déclarés. Alors, voilà le premier cadre de la situation que je vous brosse. Je crois qu'en procédant ainsi, d'une modernité comme intrinsèquement idéologique à une postmodernité plus lucide, en procédant ainsi, je crois qu'on se trompe. Et je crois que, surtout, on n'a pas vraiment analysé, on n'a pas analysé correctement, on n'a pas fait les comptes avec ce qu'il convenait d'entendre réellement par modernité. Et au fond, mon travail dans ce livre a consisté à donner une autre acception, une autre histoire possible, une autre cohérence à ce concept. Plus exactement, on s'est accommodé, je crois, d'une vision abstraite des droits de l'homme et de la forme d'inclusion sociale et politique à quoi leur promotion vaut d'être rattachée. Dans mon dernier livre, j'ai tenté de montrer qu'une autre manière de comprendre le moment moderne et une autre manière de se situer en lui peut être construite, qui prend appui non sur la philosophie politique classique, mais sur les sciences sociales, si du moins, c'est l'effort du livre, si du moins, on fait l'effort de restituer leur tradition et de les saisir dans leur signification à la fois épistémique et politique réelle. Plus exactement, si on les rétablit dans leur statut de science pratique, en fait. Ce qui suppose que l'on revienne au déplacement originaire dont procède cette volonté de savoir, hein, une volonté de savoir exprimée par les sciences sociales, volonté de savoir qui est à la fois déplacement en termes épistémiques et en termes politiques, en termes de savoir et en termes de pouvoir, et qui, en cela, ne se comprend que si on rejoue dans nos sociétés, on réexamine dans nos sociétés le rapport entre la science et la politique. Alors c'est ce déplacement, ce qu'il porte avant tout sur les catégories de la politique moderne, que je voudrais à nouveau m'attacher ici, d'un autre point de vue que dans le livre, hein, de façon en fait plus ramassée, sous la forme d'un diagramme que je crois à la fois assez simple et assez efficace. Cela afin de dessiner les contours de la politique moderne autrement qu'on ne le fait d'habitude, et autrement notamment lorsqu'on s'arme contre elle, lorsque s'arme contre elle la critique postmoderne qui en dénonce les effets de clôture. Donc je vais rétablir la modernité autrement, en dessinant autrement ce qu'est la politique moderne. Pour cela, je partirai d'un diagramme conceptuel résumant ce qu'on entend communément par là, par politique moderne, avec son intention de sortir de son cadre local d'apparition et de valoir universellement. Alors on verra qu'en introduisant l'idée que cette politique doit être comprise socialement, à la fois dans sa genèse et dans son fonctionnement, on se trouve en position d'en assainir les prémices et de mieux saisir leurs conditions d'extension dans un monde dont on ne prétend plus être le centre, mais dont on ne renonce pas non plus à décrire la cohésion, voire la cohérence, dans le sillage d'une modernité plus conséquemment assumée. Alors, quel est ce diagramme ? par politique moderne, qu'avons-nous plus ou moins confusément dans la tête? En première approche, trois éléments de définition se dégagent de notre sens commun. On a dans la tête d'abord une politique qui fait accéder d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire par diverses voies, par diverses médiations représentatives, et quoi qu'il en soit des critiques dont ces médiations peuvent faire l'objet, une politique qui fait accéder par diverses médiations le peuple au pouvoir. On a donc dans l'idée que la politique moderne est forcément une politique démocratique. Ensuite, second présupposé, on a en tête une politique construite selon des principes rationnels, une politique de la raison. Alors, en quel sens ? La politique moderne hérite de la Révolution française, paradigme des révolutions en ce sens, en se présentant comme l'accès de la raison ou de la théorie au sommet du pouvoir. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été très tôt attaquée comme une politique de philosophe, comme une pure abstraction, disponible en cela aux usages idéologiques les plus aptes à reconduire les situations d'exploitation réelles. Il reste que, avec cette nouvelle politique, et on ne se débarrasse pas de ce présupposé aussi facilement, la raison théorique prétend occuper le premier plan. Et elle le prétend en chassant deux ennemis, les pratiques politiques éprouvées au fil de la tradition et le fondement, deuxième ennemi, le fondement suprarationnel, divin, théologique, des principes du droit et de la justice. Contre la tradition et contre la fondation théologique, la raison s'impose. Tout pouvoir vient du peuple, étant entendu qu'il y a là une vérité rationnelle, fondée en raison, dont tout esprit humain est en mesure de comprendre la vérité théorique et de la comprendre sans reste. Troisième présupposé, troisième idée tacite, par politique moderne, nous entendons une politique de la liberté. Plus exactement, une politique qui coupe l'histoire humaine en un avant et un après l'émancipation politique, entre un passé de servitude et une situation actuelle de liberté. Ce point, c'est évidemment en France qu'il est particulièrement saillant. Pour des pays qui n'ont pas fait eux-mêmes l'expérience de ce basculement, mais n'en ont connu que l'écho ou le spectacle, différence qu'a bien perçue Kant, le passage prendra l'aspect continu d'une formation, la liberté se donnant plus comme un horizon à atteindre que comme une expérience qu'on emporte avec soi et à laquelle on mesure constamment la politique. La première extension de la politique révolutionnaire a été de cet ordre, spectaculaire, et formatrice, lisible comme une traînée de poudre, comme une diffusion irrépressible. Toujours est-il qu'on touche là une caractéristique générale, une rupture introduite dans le temps humain, qui emporte avec elle un changement dans l'expérience même de la temporalité. Le temps de la politique moderne n'est pas celui de la tradition, le temps extérieur des sociétés monarchique ou des sociétés de corps, marquées par le lignage royal ou la vie des corporations. Notre temps, c'est un temps rempli, un temps plein, comme création libre que la société tout entière prétend vivre en se gouvernant elle-même. Alors, retenons ces trois traits, si vous le voulez bien, politique démocratique, politique rationnelle, politique de la liberté. Il y a un quatrième trait que l'on avance bien souvent comme le principal, une politique de l'égalité. Si j'ai choisi de le tenir à l'écart de mon raisonnement, c'est que je crois qu'il n'intervient pas au même niveau que les autres et qu'il engendre en fait un certain trouble. Et qu'il est même à l'origine de notre plus grand trouble. En fait, ce trait, il circule en chacun des précédents, jouant pour ainsi dire le rôle de métacritère. Le peuple, c'est l'ensemble des citoyens égaux. La raison, c'est celle que tous les individus peuvent exercer également. La liberté, c'est celle dont tous peuvent, en droit, faire également l'expérience. Il est discriminant, donc, ce trait, mais il n'est discriminant que pour autant que les trois autres le sont. Surtout, il comporte un risque d'incompréhension, car il introduit subrepticement, dans l'acception commune, un élément différent, la forme de l'individualité, comme critère d'homogénéisation des expériences subjectives qui se trouvent impliquées dans l'appartenance collective et l'adhésion au projet moderne. Or, c'est précisément à focaliser l'attention sur cette dimension individuelle que l'on est sur le point de manquer le sens véritable du projet. Car celui-ci est d'abord et a été un projet collectif, plus exactement une manière inédite de penser les collectifs humains avec de nouvelles conditions de diffusion des valeurs propres que de tels collectifs peuvent sécréter. Reste à savoir comment travailler ces éléments définitionnels pour que cette nouveauté ne reproduise pas les anciennes limites dont on a cherché à s'affranchir. Alors, ces trois traits, donc vous voyez, j'ai exclu le quatrième, hein, ces trois traits, donc je pose que nous les admettons tous, quels que soient les camps politiques où nous nous répartissons, où nous nous distribuons. Si l'on est sincère, il faut reconnaître qu'ils sont les éléments d'un milieu de pensée dans lequel se découpent nos orientations politiques, que nous le voulions ou non. La question d'être fidèle ou non à la Révolution française, de ce point de vue, ne se pose pas vraiment. Comme l'ont vu très tôt ces auteurs politiquement si ambivalents que sont Comte, Tocqueville ou Chateaubriand, nous n'avons pas le choix. Ils disent tous la même chose sur ce point. Nous sommes de notre temps et notre temps est celui de l'après-révolution. Cela n'en fait pas une expérience monochrome où une forme unique de pensée serait possible, mais cela en fait un temps où nous consentons tous à questionner de la même manière, avec le même prisme, la politique, ne serait-ce que par le fait que nous nous reconnaissons comme ayant des opinions à la fois en elle et sur elle. Même lorsque nous avons le regard le plus critique sur la politique démocratique libérale, que ce regard provienne de la gauche ou de la droite, il hérite, quoi qu'il en soit, d'une possibilité critique disponible à tous qui vient d'elle. Comme le dit Auguste Comte, les réactionnaires, ou plutôt ceux qu'il appelle les rétrogrades, ceux qui préconisent donc un retour en arrière, hein, Bonald, Demestre, Lamennais, le jeune Lamennais, sont contraints par la Révolution d'exprimer leur point de vue sur le mode de l'opinion réactionnaire. L'expression chez Comte est parfaitement ironique, l'opinion réactionnaire. Hein. Parfois, ils atteignent un niveau de conscience que n'atteignent pas les autres, et Comte s'en est beaucoup inspiré. Mais cela ne change rien au fait qu'ils sont modernes. Car celui qui voudrait vraiment restaurer le passé doit se soumettre à cette question. Il peut bien concevoir un régime hiérarchique et pas démocratique, un régime théologique et pas rationnel, un régime autoritaire et pas libéral. Mais peut-il vraiment penser pour lui-même un régime politique où ce qu'il penserait de la politique, il ne le penserait pas lui-même ? Alors, quel est l'élan que l'on prend toujours en dernière analyse pour élargir l'expérience commune moderne dans la configuration intellectuelle de la modernité? Ce dont on parle, c'est évidemment du franchissement de limites mentales, en ce que rien ne pourra empêcher que ces limites soient continuellement renversées, perpétuellement excédées par notre pensée de moderne. Aucun pouvoir matériel, de ce point de vue, n'y peut rien. Autrement dit, ce que je cherche à faire là, c'est à ramener ce diagramme autour d'un géométral, d'un point qui offre une perspective sur chacun des trois traits. Ce point central tient en fait dans cette proposition les gens pensent, l'esprit humain avance, les lumières progressent, et cela ne peut ni ne doit jamais être contenu. Le pouvoir, les pouvoirs qu'incarnent les États sont soumis, quoi qu'il arrive, à cette déferlante. Alors certes, on ne nie pas que ces pouvoirs existent, seulement on affirme qu'ils ne sont plus désormais que cela. Des pouvoirs dont l'action, hétérogène au processus de pensée, doit savoir qu'elle ne jouit plus sur ce terrain d'aucun droit de préemption. Mais alors, quelle doit être leur nouvelle tâche, la nouvelle tâche de ces pouvoirs? Si des frontières étatiques existent dans les faits, qui n'ont aucune légitimité à faire valoir dans l'exercice de la pensée, quelle fonction doit-on assigner à la politique qui les défend, sans jamais pouvoir agir au niveau de la pensée, qui ne peut, elle, que les transgresser? Alors c'est à cette question que l'invention de la sociologie, j'ai détaché les deux parties du mot à dessein, cette curieuse science qui unit donc une racine latine et une racine grecque et qui a constitué lors de son invention un véritable barbarisme dont on n'entend plus aujourd'hui la laideur et la grossièreté, en fait, le coup de force qu'il représentait. C'est à cette question que l'invention de la sociologie, cette curieuse science qui est venue reconfigurer la conscience de soi des modernes, a fourni la réponse. Et c'est là que commence à s'indiquer la pensée politique originale qu'elle exprime, dont on a oublié la radicalité. Alors cette radicalité, elle est à première vue simplement, d'après ce que je viens de dire, on se dit que ça se ramène à ça, elle semble n'être que celle des lumières radicales. Mais en fait, vous allez voir que ça n'est pas tout à fait le cas. Car cette radicalité est assortie d'une relativisation qu'on ne trouve pas dans la tradition des Lumières radicales, qui porte au fond sur la révolution elle-même, dans la façon dont celle-ci fait événement. C'est là qu'on touche l'écart que prend la vision sociale ou sociologique sur notre naissance moderne en politique. C'est là que la pensée politique des Lumières, qui a le droit naturel pour vecteur et à quoi on a tendu à résumer le concept de modernité, s'est fourvoyée sur elle-même. Ce que la vision sociologique, dès le début du XIXe siècle, commence à nous enseigner, c'est ceci. Que la révolution des droits de l'homme n'est pas un point de départ, mais un point d'arrivée. Et un point d'arrivée qui s'est mal compris lui-même. Il est la résultante, ce point, d'une grande transformation socio-historique qui remonte très loin en arrière et non pas une naissance miraculeuse. Plus encore, à se focaliser sur ce moment et à le considérer comme inaugural, on ne voit plus en quoi a consisté exactement cette transformation et on n'est plus en mesure de la poursuivre. voulant être fidèle, voulant être extrêmement fidèle à la Révolution, on en manque le sens et on ne sait pas la poursuivre. On n'est pas en mesure de réaliser ce qu'elle porte en elle. Telle est, sous une forme extrêmement condensée, la grande objection de la pensée sociologique à la pensée politique moderne, concentrée sur ce qu'elle croit être la philosophie de la Révolution française. Par là, il s'agit toujours d'être moderne, de s'élever au niveau d'exigence de la modernité. Mais il s'agit de l'être autrement que lorsqu'on se borne à célébrer l'affirmation des droits de l'homme comme rupture instauratrice. C'est ce que je voudrais essayer de montrer assez simplement en passant par les trois éléments de définition que j'ai donnés en commençant. Donc je vais reprendre chacun des trois traits et sur chacun de ces traits, je vais montrer l'écart sociologique. Donner le pouvoir au peuple, donc, politique démocratique. Mais qu'est-ce que ce peuple auquel on veut donner le pouvoir ? Dans la politique classique, celui-ci est constitué d'individus qu'on s'attache à concevoir isolément et auxquels on attribue des qualités communes, au premier rang desquelles une volonté, pour les faire converger en une unité politique, affectée du même caractère, une volonté générale. C'est la raison pour laquelle on est d'ailleurs tenté de convoquer le quatrième trait que j'ai mis sciemment de côté, celui de l'égalité, pensée avant tout comme égalité des individus dotés de cet opérateur d'égalisation qu'est leur volonté individuelle, fondement de leurs droits subjectifs. La politique démocratique se conçoit ainsi comme une nouvelle conversion du multiple en un. De ce point de vue, elle faisait plus ou moins coïncider implicitement le peuple avec l'État, la souveraineté du peuple coïncidant avec la souveraineté de l'État, parce que la souveraineté, au fond, n'est rien d'autre dans sa forme qu'une volonté souveraine, hein, homologue à ces volontés dont les individus sont dotés. Le formalisme de cette construction n'a pas manqué d'être relevé par tous les détracteurs de la Révolution. C'est que le peuple ne correspond à rien de réel. Il reste, sous cet angle, une construction philosophique tant qu'on ne l'a pas rattaché à la société particulière d'où il est censé émerger. Or, qu'est-ce que cette société ? Avant la Révolution, deux réponses existaient à cette question. Qu'est-ce qu'une société ? Soit la société était pensée sur le mode de l'Ancien Régime comme une société de corps, structurée en statut, soit elle était pensée comme société civile, comme système d'échange, tel que l'économie politique avait, l'avait introduit dans l'histoire de la pensée. La sociologie s'affirme, de Comte à Durkheim, comme un refus de l'une et l'autre solution. En cela, elle est plus radicale que les théories prétendument radicales qui restaient dans le sillage des pensées du droit naturel de facture individualiste. La sociologie repose sur le postulat que la société n'est pas un produit du contrat social, comme le peuple rousseauiste et la fiction populaire des révolutionnaires. Mais son postulat est aussi qu'elle ne se réduit ni à la société de corps statutaire, ni à la société civile. La société est tissée, non de volontés individuelles identiques dans leur forme, non d'intérêts économiques destinés à se composer les uns avec les autres, mais de tendances, d'opinions, de pensées et d'actions différenciées qui s'articulent entre elles pour former une totalité en mouvement, doté de caractère que n'ont pas ses parties. La société est une réalité indépendante dont les propriétés ne découlent pas de celles de ses individualités constituantes. Et ces propriétés se dégagent du groupe pour influer en retour sur le comportement de ses membres. C'est tout ce circuit passant par l'extériorité du social qu'il faut étudier pour voir de quoi est faite la vie d'un collectif humain. Et c'est là, ajoute la sociologie, qu'est le vrai sujet de la politique. Alors, ce qui, dans le moment moderne, ce moment que la Révolution a rendu particulièrement saillant, mais sans elle-même en comprendre le sens, ce qui, dans le moment moderne, revêt une signification particulière. La reprise de la société par elle-même, l'accès à la structure de cet ensemble composite fait de pensée et d'action, que l'on présuppose sans le connaître, c'est cela qui est visé. Le mot de démocratie, de ce point de vue, risque de cacher ce qu'il y a de plus important dans notre expérience. L'apparition d'un ordre social qui cherche à se reprendre dans sa propre régulation interne et donc qui s'efforce de comprendre l'articulation de ces différents mouvements. La politique vraiment démocratique dépend d'une reformulation sociale du problème de l'unité que forment les individus, non en tant que peuple, mais en tant que société. Il en sortira d'ailleurs une toute autre théorie de l'État, non comme unité souveraine, mais comme cohésion mentale représentée par les gouvernants, si je me réfère à la définition durkheimienne. Alors, justement, à propos des gouvernants, quel rapport, justement, les gouvernants ont-ils à ce nouveau genre de discours, à ce nouveau genre de savants, des savants qui leur parlent, donc, des savants qui seraient des sociologues, hein, des scrutateurs de ces tendances, de ces opinions, qui leur parle d'une réalité sociale déterminant la position même des problèmes politiques auxquels eux, politiques, sont en fait confrontés. En posant cette question, la question des gouvernants et du rapport donc du discours sociologique à la politique et aux politiques, en posant cette question, on se porte vers le second trait que j'ai mentionné. La Révolution a voulu instaurer la première politique de la théorie, la première politique vraiment rationnelle. Cela, elle y parvint en faisant une révolution qui était philosophique au premier chef et qui était même celle d'une philosophie devenue réelle. Or, c'est là que on va faire porter l'objection. Il est vrai que la raison gagne du terrain. Il est vrai que l'esprit humain avance et exerce en cela de mieux en mieux sa prise sur la réalité. Mais cela ne se produit pas et ne s'est pas produit par les progrès de la philosophie. Cela s'est produit par la voie scientifique, c'est-à-dire par les différentes sciences. L'esprit ne marche pas d'un seul pas, comme le croient les philosophes, mais à des cadences différentes, en considérant les différents niveaux de la réalité phénoménale que les sciences prennent en charge. Parler de l'esprit en général n'a d'ailleurs strictement aucun sens. Ce qu'on doit considérer, ce sont les actes de l'esprit. Autrement dit, ce qu'on doit considérer, c'est l'esprit au travail, différencié en ses opérations. De même qu'il y a division du travail dans le monde social, il y a une division du travail dans les sciences, qui sont elles-mêmes des actes sociaux, des travaux au sens le plus commun du terme. Alors voilà le premier changement de regard, hein. Politique de la raison, oui, à condition de considérer que la raison n'existe que dans ses actes et que ses actes sont des travaux scientifiques. Soit, dira-t-on, mais en quoi ces travaux concernent-ils la politique? On est au cœur de cette articulation entre savoir et pouvoir dont je parlais en commençant comme un aspect de notre problème de moderne. Ces considérations concernent la politique parce que si on veut que cette politique obéisse effectivement à des principes rationnels, il est néanmoins impossible de postuler ces principes, de leur conférer une formulation valant pour toute société indistinctement et de chercher à rendre leur universalité effective. Là réside la mauvaise manière d'entendre le projet moderne, l'impérialisme théorique et pratique découlant d'une méprise sur le sens de ce projet en tant que vision sociale. Les principes de la liberté, de l'égalité, de la fraternité ne veulent rien dire en tant que principes. Ils ne veulent rien dire tant qu'on ne s'est pas interrogé sur le type de rapports sociaux qui sous-tendent leur formulation et leur conception dans la société particulière qui s'engage à les promouvoir. Renouer le rapport de la politique à la science implique ce changement de regard des modernes sur eux-mêmes. Mais alors, n'est-on pas en présence de ce rêve qu'on connaît bien et dont on connaît aussi les dérives, d'une politique non seulement inspirée par une science, rapportée à une science, mais d'une politique prétendument scientifique. À l'universalisme abstrait des philosophes, on n'aurait fait que substituer un autre genre d'abstraction, celui d'un fonctionnement social bien réglé, avec des spécialistes qui auraient à instruire les politiques, auxquelles reviendrait simplement la transformation des règles en loi. Alors c'est ici qu'on touche le point le plus difficile. La pensée sociologique que je décris n'a aucunement pour but de mettre le savant au pouvoir. Son but est plutôt d'introduire une torsion dans la manière de poser les problèmes politiques, c'est-à-dire de ramener la politique à la société dont elle est la politique. Une société est à la hauteur du mouvement d'émancipation intellectuelle qui qualifie en propre ce que nous nommons modernité, pour autant qu'en elle, des sociologues travaillent à la décrire et à la comprendre et s'expriment publiquement. Et cependant, ceux-ci n'ont rien de conseillé du prince Nouvelle Manière. En clair, les sociologues dont on parle sont des ennemis déclarés de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expertise, si du moins celle-ci se ramène à une science de gouvernement, à la manière des anciennes sciences camérales et administratives. Pour le sociologue, il s'agit de revendiquer, ici, une position d'extériorité. Mais quelle extériorité? Et que nous dit-elle de cette autre pensée politique que porterait la sociologie? Alors, répondre à cette objection-là m'engage à passer au troisième trait que j'ai distingué. On n'imagine plus, dans la modernité, de politique légitime que dans le cas où les individus accèdent à la liberté. Et cette liberté, on suppose qu'il est un lieu où elle doit s'affirmer au tout premier chef, c'est précisément dans le choix des politiques. Dans le choix des politiques qui nous dirigent. Bref, dans le droit de suffrage, se joue pour nous quelque chose d'essentiel. On suppose que l'opérateur qui fait du nouveau rapport d'obéissance autre chose qu'un rapport de soumission est le consentement que l'on donne librement à l'autorité. Posons alors la question inversée. Quelle peut être cette nouvelle autorité conforme aux réquisites modernes d'un véritable consentement ? Et qu'est-ce qu'un consentement véritable ? La réponse des sciences sociales se trouve, là encore, dans l'activité de l'esprit, et cette fois-ci pas seulement celle du savant, pas seulement de la science en acte à travers les connaissances scientifiques, mais cette fois celle de tout un chacun. Je l'ai dit en commençant cette conférence, l'activité de l'esprit est gagnée par la liberté. Ici, aucune frontière, aucun barrage ne tient, tout cède devant l'expansion de la pensée. Cela, la politique moderne l'avait traduit en un dogme, qui s'exprime en particulier dans le droit de suffrage, le dogme du libre examen. Il faut maintenant y regarder d'un peu plus près. Ce dogme révolutionnaire, examiné librement, ce dogme révolutionnaire risque bien d'être trompeur, et trompeur jusque dans ce qu'il a de plus vrai. Car en le mettant en avant, on n'a pas compris ce qu'il impliquait vraiment. Pris à la rigueur, la vérité du consentement moderne impliqué dans la liberté d'examiner, c'est qu'il n'y a d'autorité véritable qu'intellectuelle. Tel est, on l'a vu en commençant, le grand mouvement dont la révolution elle-même hérite bien plus qu'elle ne le crée. C'est cela qu'a produit pour tous le progrès de l'esprit. Et c'est cela son résultat en politique. Donc, si la politique révolutionnaire veut avoir un sens, ce ne sera pas comme une politique sceptique ou pragmatique, mais comme une politique de la vérité pour tous, où les hommes sont en position de suivre ce qui est vrai, conformément aux connaissances que la science, rapportée à la société qu'ils forment réellement, leur a permis d'acquérir. Mais le problème est qu'on a mal compris cette implication. On l'a comprise comme une indistinction entre le jugement de tout un chacun et l'autorité nouvelle. Bref, du dogme du libre examen, on a dangereusement glissé à une indistinction entre l'opinion et la science. Et en brouillant la frontière, on a corrompu chacun des deux concepts. La véritable opinion, c'est-à-dire littéralement la capacité à opiner, à dire oui, à consentir au sens moderne, ne peut s'affirmer que si la science se dresse devant elle comme distincte d'elle. Mais réciproquement, la science ne se développe sans dévier de sa mission que si elle est constamment exposée, au sens là aussi littéral de rendu visible, à l'opinion. Une conséquence remarquable en découle. C'est que dans ce cas, la science sociale appartient à une sorte de pouvoir qu'il faut bien appeler, par référence au pouvoir religieux, un pouvoir spirituel. Cette référence est revendiquée chez son fondateur, Auguste Comte. Sous une forme cryptée et altérée, elle subsiste, à mon sens, dans toute la tradition sociologique, parce qu'elle est, et ce n'est pas très grave, parce qu'elle est le point d'orgue du genre de discours politique qui la traverse. Alors, je vais préciser. Le pouvoir spirituel est devenu pouvoir intellectuel. Or, un tel pouvoir n'a pas de frontières. L'allusion à la papauté, du reste, chez Comte, chez Auguste Comte, dont j'ai beaucoup parlé dans mon livre, n'est pas indifférente. Chez Comte, c'est ce qui fait d'ailleurs pour partie le scandale de sa sociologie, elle est revendiquée. Évidemment, notre âge séculier et laïque résiste ici de toutes ses forces. Nous voulons une pensée sans limite, mais nous ne voulons pas la confondre avec celle d'un souverain pontife. Ce en quoi, bien sûr, nous avons raison, puisque la critique des dogmes, sous l'égide du libre examen, nous en a effectivement affranchis. Mais cela ne change rien au genre d'unification mentale que nous visons, au-delà de la critique par laquelle nous nous sommes libérés, par laquelle nous sommes devenus modernes, au sens que nous voulons défendre. Cette unification, il nous faut la retrouver dans la pensée de l'unité sociale que nous formons, dans la connaissance des rapports réels qui constituent la société à laquelle nous appartenons, et des forces qui la contrecarrent, des conflits qui la menacent, des pathologies qui l'affectent. La critique sociologique, autrement dit, doit venir à l'appui de la critique individuelle de tout un chacun, aiguiser son jugement critique et guider ses choix politiques, parce qu'elle éclaire ce jugement sur le mode de la solidarité réelle dont sa société dépend, en le rapportant à la solidarité réelle dont sa société dépend, et sur les atteintes que cette solidarité subit ou risque de subir. Qu'il y ait des sociologues, que la sociologie fasse partie de la manière dont nos sociétés se font, est en cela une condition essentielle à notre maturité de moderne. Mais pour cela, encore faut-il les créditer d'une autorité. Autorité au sens strictement intellectuel, qui ne dispose en tant que telle d'aucune prise sur un quelconque appareil de décision. J'ajouterais qu'il n'est corrompu par aucun engagement pratique. Car c'est seulement s'il a cette pureté théorique que le nouveau genre de savant répond au seul consentement réel dont l'opinion est susceptible, le consentement à ce qui a été pensé et strictement pensé, à ce qui tire sa raison à se faire obéir de la seule source de la raison, le consentement à son égard étant alors vraiment un consentement, parce que c'est à cette seule condition qu'il mérite le qualificatif de libre. Il y a donc, comme point culminant d'une politique inspirée par la sociologie, une thèse fondamentale. Cette thèse, c'est celle qui porte sur la visibilité ou l'ouverture de la vérité des phénomènes sociaux au jugement de tous. Une thèse sur la fondation réciproque de l'opinion et de la science, sur la pénétrabilité de la science par tout esprit quel qu'il soit, et donc une démocratisation de l'accès aux démonstrations scientifiques par des voies institutionnelles diverses, éducatives, médiatiques, académiques, avec en particulier le développement d'une éducation populaire où, comme le voulait Comte, les plus grands savants s'astreignent à la plus stricte vulgarisation, ou encore avec le développement d'une presse scientifique d'un genre qui n'existe malheureusement pas, qui élève la vulgarisation au rang d'un art décisif. Une thèse égalitaire, si l'on veut, mais égalitaire seulement quant aux possibilités d'accéder à un certain niveau de jugement et nullement quant aux modalités d'exercice de ce jugement. C'est que la vision sociologique engage, telle que je vous l'ai décrite, une différence jalousement préservée entre trois pôles bien distincts. En fait, elle tient tout entière dans ce triangle, à condition justement que les trois angles ne soient pas écrasés. Premier point, celui constitué par ceux qui étudient les phénomènes sociaux et dégagent le sens des tendances à l'œuvre dans la vie sociale actuelle, soumettant leurs résultats au jugement de tous. Deuxième point, ceux qui accèdent à ces résultats sans faire eux-mêmes les démonstrations et les expériences qui les sous-tendent, mais qui peuvent être en mesure de les refaire en se soumettant à une éducation appropriée, par quoi ils quittent alors l'opinion à laquelle, pour l'instant, ils appartiennent. Enfin, les politiques, ceux qui agissent et qui, dans cette mesure, ne peuvent pas se confondre avec la recherche objective conduite à l'écart, mais doivent, comme l'opinion à laquelle ils appartiennent aussi, parce que les politiques appartiennent à l'opinion, et sans bénéficier à cet égard d'aucun conseil qui ne s'adresserait qu'à eux, les conseils de l'expert, recevoir les lumières. On le voit, la grande question que pose la politique issue de la sociologie est donc: qu'est-ce qui distingue les politiques à l'intérieur du régime commun de l'opinion, puisque la science sociale n'est pas une action politique et ne doit jamais s'y mêler. Ce qui la distingue, donc la politique, c'est qu'elle fait partie de l'opinion qui a la charge de garantir que le pouvoir spirituel des modernes soit entendu et diffusé publiquement, qu'il ne se referme pas sur un cénacle impénétrable, qu'il puisse travailler à connaître ce sur quoi le politique a à agir et à faire travailler cette connaissance dans le jugement de tout un chacun, c'est-à-dire dans le sens commun. Pour qualifier cette sociologie dont je vous parle dans cette conférence, faut-il user alors de l'appellation de nouvelle science ou de nouvelle politique ? En fait, il n'y a pas ici d'alternative. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la sociologie est une nouvelle science que la modernité a appelée spontanément de ses voeux et qu'elle appelle sans cesse de ses voeux lorsqu'elle est conséquente avec elle-même. Mais alors, le sens politique très singulier de cette science saute aux yeux. Elle s'avère essentielle dans une configuration complexe où la presse et l'éducation jouent un rôle clé à l'existence d'une saine démocratie, une démocratie de l'opinion éclairée et pas une démocratie de la tyrannie de l'opinion. Ce qu'on appelle la politique, c'est-à-dire l'action des gouvernants pour être conforme aux réquisites de la modernité, suppose donc tout cet édifice que la vision sociologique a permis de déployer. Voilà, je vous remercie.
Donc, je vous remercie beaucoup pour cette conférence à la fois très éclairante sur le projet du livre dans son unité, le projet de pensée que vous nous proposez, et puis je trouve très, très accessible à l'ensemble du public. Dans ce que je comprends, je voulais moi-même poser un certain nombre de questions pour m'éclairer plus qu'en réalité discuter. La première question que je voudrais poser concerne l'optique qui est la vôtre dans, je dirais, le mariage ou l'articulation de la philosophie de la sociologie. Parce qu'on connaît, récemment en tout cas, de nombreux, on va dire ça comme ça, projets de tentatives d'articuler la philosophie et les sciences sociales. Toujours, jusqu'à présent, dans une perspective, je dirais, critique. Bon, la semaine dernière, on recevait Honnête, donc c'est la perspective des sciences sociales dans l'optique d'une critique de la société. Si je reprends, par exemple, le manifeste de Frank Fischbach, Philosophie sociale, c'est dans cette perspective-là. Vous nous proposez une perspective, au fond, de... qui consisterait à assumer la politique des modernes, hein, sous ces différents traits que vous nous avez proposés, tout en l'enracinant dans la sociologie ou dans une pensée de la société, dans sa totalité, de façon qu'effectivement, cette politique des modernes ne se dissolve pas dans un individualisme négateur de la société, pour dire la chose ainsi. Hein. C'est comme ça que je vous ai entendu. La question que je voudrais vous poser est la suivante. C'est, dans cette perspective, pourquoi avoir mis le principe de l'égalité quatrième trait et l'avoir d'une certaine manière mis entre parenthèses, parce que l'égalité est vraiment, entre guillemets, le principe critique de ce que pourrait être une philosophie sociale. Ça serait précisément l'instrument d'une critique sociale. Donc pourquoi
pour cette
l'avoir
raison,
mis voilà, oui.
Alors, non, merci de... Il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce qu'il faut entendre par critique, en fait. Je vais essayer d'abord de situer l'articulation entre philosophie et sciences sociales telle que je la pose, et ensuite situer le problème de la critique tel que je pense le reprendre néanmoins, sans justement me nourrir de la théorie critique.
Oui.
Alors... l'articulation, pour moi, elle est simple. Elle prend acte d'abord d'une existence de la philosophie qui précède de beaucoup l'apparition des sciences sociales et du bouleversement suscité en philosophie par l'apparition des sciences sociales à l'époque moderne. Donc pour moi, le problème est d'abord un problème d'histoire de la pensée. Notre pratique de la philosophie, je suis philosophe, hein, donc ma pratique de la philosophie, j'estime qu'elle a changé depuis au moins 2 siècles de façon substantielle. Et elle a changé parce que sa vocation politique est soumise à s'interroger sur la reconstruction des concepts de la philosophie politique par des sciences. Mmh. Alors, cette reconstruction, ce n'est pas simplement une voie alternative. Hein. C'est, comme je vous l'ai dit là, très simplement, remise en question radicale sur ce qu'il faut entendre par droit subjectif, ce qu'il faut entendre par liberté, ce qu'il faut entendre par peuple, hein, ce qu'il faut entendre par souveraineté. Ces catégories fondamentales de la politique moderne, alors là, il faudrait entrer dans plus de détails et distinguer la politique des anciens, la politique des modernes, mais disons, les catégories fondamentales de la philosophie politique moderne, hein, ces catégories fondamentales ont, par le biais des sciences sociales, subi une forme de relativisation dont je crois que la philosophie doit recueillir l'écho. Alors autrement dit, si je dis philosophie des sciences sociales et pas philosophie sociale, c'est que pour moi, la philosophie est passée au second plan. Ça ne la fait pas disparaître et ça ne diminue pas le sens de sa mission. Je crois qu'elle a une mission que les sciences sociales ne peuvent pas remplir. Je dirai ensuite laquelle. Mais néanmoins, il faut partir de là. Lorsque nous nous référons à l'idée de droit, l'idée de liberté, l'idée de droit comme corrélée intrinsèquement à l'idée de liberté, hein, Hobbes, Léviathan, hein, l'idée de droit objectif ramenée exclusivement à la loi, hein, là encore Hobbes dans le Léviathan, lorsque nous nous référons à la souveraineté dans les termes de la représentation hobbésienne, etc., en fait, nous parlons un langage philosophique qui n'est plus en prise, je crois, sur l'expérience politique. Alors, je crois que l'expérience politique, la façon dont la politique est vécue par les sociétés modernes, est restituée beaucoup mieux par les sciences sociales du politique, hein, que par la tradition de la philosophie politique. Et ce que j'ai cherché à faire, c'est à retraduire, hein, en philosophie cet effet. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait le retraduire ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait des philosophes dans ce cadre-là ? Alors, je veux répondre. Je pense que il faut des philosophes pour une raison essentielle, c'est que l'histoire de l'aspect politique de la tradition sociologique, la sociologie elle-même ne peut pas la faire. C'est l'autre aspect de la thèse. Non, mais c'est que la relecture de la tradition sociologique comme altération des concepts politiques modernes, hein, est la tâche de la philosophie. Pourquoi ? Parce que, précisément, la philosophie dispose de l'écart entre son discours et l'expérience politique. Et que, mesurant cet écart, redéfinissant donc ses concepts, elle offre à la science sociale un miroir pour voir en quoi elle traduit l'expérience politique des modernes. Voilà. Alors maintenant, je n'ai pas répondu sur la critique.
Oui,
je n'ai pas répondu. En quoi c'est critique, ça ? D'abord, ce n'est pas obligatoire d'être critique. Bah évidemment, ça fait mieux, mais la question, c'est ça. C'est quel est le point d'appui de la critique ? À partir de quoi on critique ? Moi, ce qui m'est apparu dans ma formation, dans mon travail, c'est que, bien souvent, la critique telle qu'elle se développe en philosophie politique aujourd'hui est en réalité incapable de sortir d'un mode de raisonnement individualiste. Et j'ai voulu, alors pour des raisons qui sont compliquées, hein, pour des raisons qui sont compliquées, qui tiennent d'ailleurs au croisement de différentes traditions, mais j'ai voulu effectivement aménager les cadres d'une autre manière, hein, de critiquer l'injustice sociale, les inégalités, ce que je crois absolument nécessaire, ce n'est pas le problème, mais depuis quel point ?
On va vous remercier. Donc, merci beaucoup pour cette conférence. Et puis, nous nous retrouvons le 25 mars pour entendre Mireille Delmas-Marty sur son dernier livre, dans le souvenir que, et des questions liées au droit.